9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. Non, c'était un trou de hobbit, d'où un certain confort. Cette phrase d'ouverture toute simple, cet incipit de Bilbo le Hobbit, amorce toute une mythologie moderne. C'est le prologue d'une œuvre gigantesque, née de la vie, née des passions d'un certain John Ronald Reuel Tolkien. Par ce premier pas, Tolkien invitait le public à découvrir la Terre du Milieu, un univers à la fois familier et étranger, et puis un espace d'évasion, mais aussi de réflexion qui continue de fasciner des générations de lecteurs. Ce monde, l'auteur l'a créé pour fournir un cadre au langage qu'il a conçu. Il l'a voulu le plus complet, le plus cohérent, il l'a voulu le plus convaincant possible. Pour le Hobbit, Tolkien se souvient de sa toute première source d'inspiration. C'est intéressant de savoir comment l'idée vient à un auteur. Je le cite. « Je revois encore le coin de ma maison au 20 Northmouth Road quand c'est arrivé. J'avais une énorme pile de copies d'examens et noter des examens durant l'été est une lourde tâche, très laborieuse, très ennuyeuse aussi, hélas. Je me rappelle avoir ramassé une copie où il y avait, je lui ai presque donné un point supplémentaire, 5 points supplémentaires, une page laissée vierge. Magnifique, rien à lire. Alors j'ai griffonné dessus. Ne me demandez pas pourquoi. Au fond d'un trou vivait un hobbit. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ce besoin de créer des mondes, de construire des mythes, d'aller les fouiller, Tolkien le portait en lui, et ce depuis l'enfance. Il était né en Afrique du Sud, Tolkien, en 1892, et très tôt il a connu la douleur de la perte. Ça va marquer toute son œuvre littéraire. Il disait en 1968, je le cite, « Une histoire humaine ne parle pratiquement toujours que d'une seule chose, la mort, l'inévitabilité de la mort. » Toujours est-il que pour des raisons de santé, Tolkien est revenu en Angleterre avec sa mère et son frère et qu'ils ont laissé derrière eux le père qui est resté en Afrique où il va finir par succomber à une maladie. Et durant l'été 1896, la famille s'installe dans un petit cottage en briques à Sayre Hall, un village qui n'est pas très loin de Birmingham, on est au sud de Birmingham, et c'est là que le jeune Tolkien découvre un univers nouveau, peuplé de forêts mystérieuses, de rivières qui sinuent comme ça au milieu de la végétation et qui vont nourrir son imaginaire. Et dès son plus jeune âge, il se passionne pour les histoires. Sa mère lui raconte des contes de fées, elle lui raconte des légendes, Mabel c'est son nom, notamment des légendes issues de la mythologie nordique et des récits celtiques. Ça va beaucoup imprégner l'imaginaire du gamin, évidemment, des histoires qui vont le fasciner autant par le pouvoir des mots et la magie des récits que par toutes les résonances que ça entraîne. Tolkien commence bientôt à créer ses propres histoires et même, c'est plus étonnant, il va bientôt créer ses propres langues. En 1900, sa mère, qui était anglicane, décide de se convertir au catholicisme et elle va élever ses deux enfants dans cette foi. Et là encore, le catholicisme va beaucoup influencer l'œuvre de Tolkien. L'année 1900, c'est aussi celle où Tolkien découvre l'école, en l'occurrence la King Edward School de Birmingham, ce qui oblige la famille à déménager. Et pour Tolkien, quitter Sayre Hall, quitter ce village, c'est un déchirement. Il vient de passer là 4 années qui me semblèrent les plus longues, les plus enrichissantes de toute ma vie. C'est aussi une question d'âge. À cet âge-là, les années paraissent durer des décennies. À la King Edward School, Tolkien découvre le grec ancien et le vieil anglais. Tout ça attire cet intérêt qu'il avait déjà pour les langues un peu bizarres, pour les langues germaniques, pour la philologie. En 1904, nouveau drame dans la famille, puisque Mabel, la mère, est atteinte d'un diabète sévère, pour lequel à l'époque on ne connaît pas de traitement, et elle va sombrer dans le coma. Et elle va mourir en laissant la garde de ses fils à son confesseur, qui est un proche ami de la famille, le père Francis Morgan. Après un passage chez leur tante, les deux garçons sont accueillis par une famille qui s'appelle la famille Faulkner. Et c'est là que Tolkien, il a 16 ans à l'époque, va rencontrer une jeune fille qui a 3 ans de plus que lui, qui loge dans la chambre juste au-dessous de la sienne et qui s'appelle Edith Bratt. Et entre elle et Tolkien, c'est d'abord une amitié, mais c'est une amitié si forte, si belle, qu'elle devient un amour. À côté de ça, Tolkien s'est lié d'amitié avec 3 camarades d'école avec qui il va fonder le TCBS, c'est-à-dire le Tea Club and Barrovian Society. C'est une espèce de groupe qui se réunit dans un salon de thé, le salon de thé des Barrow's Store, d'où le nom de Barrovian Society. On est dans le centre de Birmingham. L'ambition de la petite société, c'est de réformer en profondeur le monde à travers les différents arts que pratiquent les membres. C'est un peu utopique, hein, mais ce sont des gamins. Les arts en question, c'est la musique, la peinture, la poésie, la littérature. Et le père Morgan, qui est un peu inquiet des résultats de Tolkien, qui est pris entre ses relations amoureuses et puis avec cette Edith et puis ces espèces de réunions avec les copains, tout ça inquiète le confesseur. À quelque chose, malheur est bon, Tolkien va redoubler d'efforts dans ses études et il est admis dans la grande et prestigieuse université d'Oxford à l'Exeter College. Vous imaginez, c'est là qu'il va commencer à étudier les classiques avant de se rediriger vers un cursus d'anglais et se plonger dans cette littérature anglaise d'avant le XIVe siècle. L'histoire de la langue anglaise, ça passionne Tolkien et les relations qu'elle a eues avec cette langue germanique. Il retrouvera Edith 3 ans plus tard et il va l'épouser en mars 1914. Mars 1914, vous voyez que la guerre est bientôt là et que la guerre va bientôt les séparer. Fondation de pierre, un extrait de la bande originale du Seigneur des Anneaux, c'est Howard Shore lui-même qui dirigeait l'orchestre du studio.
Vous écoutez Radio Classique.
Il a 21 ans, le jeune Tolkien, J.R.R. John, quand éclate cette guerre de 14, comme beaucoup de jeunes hommes de son âge, il est mobilisé, bien entendu, non sans avoir d'ailleurs décidé de terminer ses études avant. En juin 16, il s'engage donc dans le Lancashire Fusiliers et il est envoyé en France, sur le front et dans les tranchées de la Somme. Il découvre l'horreur des combats. Ils ont tellement... Ça a été très dur hein, pour les Anglais, ces batailles de la Somme. Il va perdre 2 amis très chers qui faisaient partie du Tea Club. Là. Et la guerre dévaste sa génération. Et Tolkien tombe lui-même gravement malade. Il a ce qu'on appelle ordinairement la fièvre des tranchées. Et il est rapatrié en Angleterre en novembre 1916. Ces expériences, ces pertes tragiques, toute cette souffrance, tout ça a laissé des cicatrices, bien sûr, et ça va influencer ses futurs écrits. Tolkien va trouver une manière de transcender cette douleur en créant un monde où la lutte entre le bien et le mal serait omniprésente, avec des batailles épiques, mais qui toujours sont ancrées dans la lutte morale des personnages. Des écrits qui commencent à prendre forme sous la plume d'un homme qui a vu l'effondrement de son monde, pour ne pas dire de sa civilisation, qui aspire à une histoire intemporelle qui la rapprocherait d'une certaine manière des grands mythes, ces grands mythes qui ont bercé son enfance et avec lesquels il est devenu très familier. Pendant sa convalescence, il a commencé à travailler sur ce qu'il appelle les contes perdus. C'est des récits épiques qui d'ailleurs vont poser les bases de ce qui deviendra la Terre du Milieu. Il puise dans ses connaissances en philologie, en mythologie, dans son expérience, bien sûr, pour donner naissance à cette espèce de légende d'un passé fictif dans un temps très ancien. C'est comme ça que lui-même définit la temporalité de ces récits qui d'abord se concentrent sur les mythes de la création du monde et des premiers peuples de la Terre du Milieu. Il y a les elfes, les Valar, des êtres qui sont quasi divins. Tolkien crée un cadre complexe où ces premiers contes vont s'entrelacer pour former une mythologie pour l'Angleterre, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'aller compléter le folklore britannique. D'ailleurs, la particularité de cet univers créé par Tolkien, c'est qu'il n'a pas lieu sur une autre planète ou dans une autre dimension. Il s'agit simplement d'un passé de la Terre, mais qui serait un passé imaginaire. Je le cite. J'ai construit, je le crois, une époque imaginaire, mais quant au lieu, j'ai gardé les pieds sur ma propre terre maternelle. Je préfère cela à la mode moderne qui consiste à rechercher des planètes lointaines dans l'espace. Quoique curieuses, elles nous sont étrangères, et l'on ne peut les aimer avec l'amour de ceux dont nous partageons le sang. Vous voyez qu'il y a bien cet ancrage, évidemment, dans les récits de Tolkien. Alors, il y a beaucoup de rapports, disons-le, entre le comté des Hobbits et la campagne des Midlands de l'Ouest, où lui-même a grandi, bien sûr. Ses premiers écrits vont former plus tard une partie du Silmarillion, qui est un recueil de légendes, d'histoires anciennes, qui vont poser donc tous les fondements de la Terre du Milieu avec la description de ses habitants. Et c'est à cette époque que Tolkien commence à élaborer des langues comme le Quenya, le Sindarin, qui sont inspirés respectivement du finnois et du gallois. Et pour lui, la langue qui est au cœur de l'identité de ces peuples imaginaires, c'est la langue qu'en quelque sorte il crée. Il y a quelque chose de démiurgique dans ce travail, bien entendu. Chaque mot, toute la syntaxe qu'il élabore, tout ça contribue à la culture, à l'histoire des gens. Parce que la Terre du Milieu, ce n'est pas seulement une série de paysages et de personnages, c'est quelque chose de plus profond, des langues, des récits, des traditions. Bref, c'est une civilisation qui s'enracine dans cette mythologie complexe. Et cet univers, Tolkien le façonne en parallèle à sa propre carrière académique. Il est prof d'anglais en 24, il a 32 ans à l'époque. C'est le moment où naît son troisième fils, Christopher. L'année suivante, il est élu professeur d'anglo-saxon à Oxford, s'il vous plaît. Et ça lui permet de poursuivre ses recherches philologiques, d'enrichir son univers littéraire à Oxford. Il fait la connaissance de Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, avec qui il va fréquenter les Inklings. Ça, c'est un club d'amis qui se réunissent pour boire et fumer, c'est sûr, et plaisanter, mais aussi pour discuter, lire à haute voix, commenter, orienter leurs travaux, discuter des textes qu'ils sont en train de composer. C'est un bouillon de culture extraordinaire, ce club des Inklings. De ceux qui écrivent. C'est à peu près à cette époque aussi que Tolkien commence à imaginer un livre qui serait né des histoires qu'il racontait à ses enfants, un livre qui raconterait les histoires d'un homme de petite taille vivant une vie paisible au fond d'un trou sous une colline. Un extrait de la bande originale du Hobbit, le film de Peter Jackson. C'était en 2012. C'est encore Howard Shore qui est à la composition, bien sûr, et à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Londres.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
En 1937, après pas mal d'hésitations, de retours en arrière, de remaniements, Bilbo le Hobbit est publié. Ça avait commencé comme une histoire de bonne nuit les enfants et ça devient un mythe tout de suite de la littérature. C'est un grand succès. Les aventures de Bilbo Sackett, ce hobbit paisible, hein, entraîné malgré lui dans une quête périlleuse, ces aventures vont très vite trouver leur public. Et derrière le ton qui a l'air comme ça enfantin et limpide, les lecteurs entrevoient la profondeur de tout ce monde tissé de mythes. Le roman est salué par la critique. Son succès encourage les éditeurs à demander une suite qui va venir avec le Silmarillion, hein, cette immense mythologie de la Terre du Milieu sur laquelle travaillait Tolkien depuis déjà 2 décennies. Mais son éditeur lui fait comprendre que c'est pas ce qu'attendent les gens. Pendant les années qui suivent, Tolkien va donc travailler sur une suite de Bilbo le Hobbit. Pour qui il pensait n'avoir plus rien à dire, ça va s'avérer bien plus ambitieux que tout ce qu'il avait imaginé. Ce projet, qui au départ devait être une continuation des aventures de Bilbo, se transforme en une épopée. Et quelle épopée ! Quelque chose de grandiose, totalement influencé par la vision qu'a Tolkien du monde. C'est une philosophie qu'il est en train de faire advenir en introduisant les personnages de Frodon, le neveu de Bilbo, dont la quête est de détruire l'anneau magique de son oncle et ainsi de terrasser le pouvoir maléfique de Sauron. Ce sera le Seigneur des Anneaux, hein, c'est ça qui va sortir, bien sûr, roman monumental où l'ombre de la guerre, de la mort, les questions de pouvoir, de corruption, le thème de la lutte du bien et du mal, tout ça est au cœur de ce roman rayonnant. Tolkien mettra 15 ans à écrire son Seigneur des Anneaux qui sera publié en 3 volumes entre 1954 et 1955.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et donc avec le Seigneur des Anneaux, Tolkien ne se contente pas d'offrir une suite à Bilbo. Il donne naissance à une espèce de genre littéraire. Ce qui est en train de naître, c'est un genre qui jusqu'alors n'avait pas encore existé, en tout cas pas à ce niveau-là. Son récit établit les bases de ce qu'on va appeler l'heroic fantasy, la littérature de fantasy riche en mythes, en symboles, où l'attention aux détails, la cohérence de l'univers est primordiale. Tout est symbole. On se meut au milieu de symboles, de reflets de ces symboles. Le succès de l'œuvre est invraisemblable. Hein. Le public du Seigneur des Anneaux va devenir très, très, très vaste. On a depuis longtemps fait exploser les cercles littéraires. Là, dans les années 60, la trilogie est un phénomène de société, hein, notamment auprès des jeunes générations, bien sûr. Le Seigneur des Anneaux est apprécié pour, bien sûr, sa qualité littéraire et sa profondeur et sa portée symbolique, mais aussi pour l'univers qui a été créé et qui est une sorte de critique, mais une critique très raffinée des ravages de l'industrialisation, des souffrances de ces 2 guerres qu'on vient de subir. C'est un hommage à la nature, aux valeurs humaines universelles. Et vous me voyez venir, vous voyez quel type de philosophie est en train d'advenir qui va politiquement se faire jour dans les décennies qui suivent. Dès les années 60, le Seigneur des Anneaux devient le symbole d'une contre-culture, et ce, encore plus aux États-Unis qu'en Angleterre. Évidemment, il y a la guerre du Vietnam entre-temps. Et des slogans comme « Gandalf président » vont surgir dans les manifs contre la guerre du Vietnam, vous imaginez. En 1977, c'est-à-dire là on est 4 ans après la mort de l'écrivain, son fils Christopher, après avoir rassemblé et donné un sens aux milliers de papiers que son père avait laissés en vrac après sa mort, son fils Christopher va publier le Silmarillion, donc qui est la genèse des premiers âges de la Terre du Milieu. Depuis sa création par la musique des Ainur jusqu'au piège des anneaux tendus par Sauron aux races des elfes, des nains, des humains, que son père n'avait pas eu le temps de publier, tout ça, bien sûr. Tout ça crée une sorte de grande trilogie, si vous voulez, le Silmarillion, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, la mythologie est complète et l'héritage de Tolkien va culminer avec les adaptations cinématographiques dont vous avez entendu les bandes originaires, bien sûr, ce qui va donner, à l'œuvre de Tolkien un nouveau public. Et ce monde imaginaire devient un des univers de la fantasy les plus iconiques. Ça fait partie maintenant, disons-le, de la culture populaire. Hein. Les films ont renouvelé aussi l'intérêt pour les livres, ce qui veut dire que maintenant, les romans se sont vendus à 150 millions d'exemplaires. Autant dire que ça fait partie des 10 ouvrages les plus vendus dans toute l'histoire de l'humanité. L'œuvre de Tolkien n'a pas seulement façonné ce genre nouveau, la fantasy, elle a introduit une nouvelle façon de raconter les histoires, avec une manière où le langage, la culture, l'histoire se mêlent pour former un univers vivant et crédible. À travers la Terre du Milieu, Tolkien a donné vie à une mythologie qui... bien longtemps maintenant après sa création, ce sera bientôt le centenaire. Cette mythologie, elle continue de fasciner les plus jeunes, d'inspirer beaucoup de lecteurs, de les rassembler aux quatre coins du monde. L'auteur de Game of Thrones, notamment, vous savez, Martin, disait « Nous ne devrions jamais oublier que le voyage a commencé à cul-de-sac et que nous marchons tous, toujours, dans les pas de Bilbo. »
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Gaspard Le Marinier de nous avoir permis de pénétrer au moins sur le seuil de son univers favori. Et bonjour à notre hobbit préféré,
Monseigneur
Christian Morin.
Alors, qui sont les héritiers de Tolkien, parce qu'avec 150 millions d'exemplaires...
Vous imaginez, hein, c'est pas mal. Vous savez que c'est une industrie à part entière. Hein,
ça fait, oui, j'imagine.
C'est
j'imagine.
Une société, une corporation, comme on dit là-bas.
Mais merci d'avoir évoqué tout ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vu les films sans connaître réellement l'histoire.
Oui, alors quand on voit les films, c'est dommage de ne pas se plonger quand même dans les livres, parce que c'est là que ça se passe.
Bien, alors cet après-midi, c'est pas... il faudrait un jingle alerte enlèvement. Non, c'est une alerte fuite, puisque j'apprends que les filles de Louis XV ont pris la file de l'air.
Oui, elles sont en train d'essayer de fuir les mauvais événements qui se passent à Paris. Mesdames de France, comme on les appelait.
Voilà, 14h, rendez-vous avec Franck tout à l'heure. Et bien sûr, toutes ces émissions, je le rappelle, sont disponibles en podcast pour Franck. Et puis, demain matin, bien sûr, à 8h05, avec David Aviker. Bonne journée.
Je vais en parler à Lunéville, figurez-vous, tout à l'heure, des filles de Louis XV, notamment. Parce qu'après tout, elles étaient... Les petites filles de Stanislas, du roi déchu de Pologne.
Parfait. Vous saluerez tous les habitants de Lunéville de
notre
part. Merci, mon cher Franck. Et bonne...